Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour, bienvenue pour le sixième cours, ça passe vite. Et nous sommes à un moment où on a des patriarches, on les appelle des patriarches, qui vivent, qui ont des années de vie très très longues et qui préparent d'une certaine manière le déluge. Donc nous avons vu déjà la semaine dernière ces nombres qui sont assez impressionnants, et je vous ai aussi dit que les indications sur les âges des patriarches correspondent pas forcément toujours entre le texte massorétique, le texte de la Septante, donc la traduction grecque, ainsi que le texte samaritain, le Pentateuque samaritain. Donc il y a des différences. Ce qu'on donne toujours, c'est l'âge de la personne au moment du premier engendrement, ensuite la durée restante de sa vie et la vie totale. Donc vous les avez et vous pouvez les voir au début ça correspond à peu près, et après vous avez vraiment des très très grandes différences, surtout si vous regardez le Pentateuque samaritain. Là on a une certaine logique parce que si vous prenez la colonne tout à gauche, vous voyez en fait que ça descend constamment, les âges de ces patriarches. Ce que Gertz, par exemple, pense que c'est un signe qu'ils deviennent un peu mauvais et que donc Yahvé en fait réduit leur durée de vie, mais ce n'est pas aussi clairement dit. Après, comme je vous ai dit, et je vous le montrerai encore, il y a des grandes différences dans le calcul. Si vous prenez par exemple les 777 ans de Lamech. Vous vous souvenez de Lamech, on l'avait vu en Genèse 4, qui disait que si Caïn sera vengé 7 fois, lui, il voudrait être vengé 77 fois. Et là, il vit, comme par hasard, 777 fois. Donc là, on a quand même l'impression qu'on a un peu retravaillé ces âges de plusieurs manières. Donc, si vous regardez la chronologie des âges, donc on arrive en fait à une date du déluge qui diffère également selon les trois traditions textuelles. Et donc, au texte massorétique, c'est 1656. Dans le texte grec, où c'est le plus long, on est à 2242, et puis sur le texte massorétique, c'est le plus court, on est à 1307. Donc voilà, si vous avez des envies mathématiques, il faudra un peu s'interroger sur tous ces chiffres, c'est pas toujours très clair, mais les rédacteurs du texte grec, ils ont quand même fait une certaine bêtise. Je vous l'ai dit, je crois, déjà la semaine dernière. Si vous regardez l'âge de Methusalem ou Methuselah, qu'est-ce que vous constatez? Il meurt seulement à l'âge de 2256 sur l'année du monde, alors que le déluge arrive en 2242. Ça veut dire, en fait, selon la logique du texte grec, Mathusalem devrait être encore en vie lors du déluge. Ce qui n'est pas vraiment le cas, apparemment. Alors que dans les autres, donc, vous voyez que chez les Samaritains, il y a trois personnages, Yéret, Methuselah et Lamech, qui meurent justement 1307, l'année du déluge. Donc l'idée, sans que ça soit raconté dans l'histoire, hein, l'idée c'est apparemment qu'ils sont engloutis par le déluge, ce qui est également le cas de Methuselah dans le texte samaritain. Alors on peut se poser la question, à quoi ça sert tous ces âges et toutes ces indications chronologiques? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Il y a certainement des réflexions là-derrière. Il y a des gens qui voulaient trouver des significations pour chaque âge et chaque indication chronologique. Jusqu'à aujourd'hui, pas vraiment couronné de succès. Mais si quelqu'un veut s'y atteler, il y a encore du travail à faire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'apparemment, le texte massorétique, donc le texte hébreu standard, les indications chronologiques ont été en effet revisées dans le but d'arriver à un moment important dans l'histoire, probablement l'an 4000 selon la création du monde. L'an 4000 selon la création du monde, ce qui correspond en effet à la purification du temple sous les Asmonéens en 664. Et ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a pu encore intervenir dans le texte hébreu jusqu'au deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Hein ? Donc, je vous montre un peu le détail. Donc, si vous prenez toutes les indications chronologiques que je vous ai mis là, les 100 ans d'Abraham au moment de la naissance d'Isaac, les 60 ans de Jacob à la naissance... les 60 ans d'Isaac au moment de la naissance de Jacob, les 130 ans où Jacob descend en Égypte, et ensuite vous rajoutez encore les 430 ans. Tout ça, c'est des indications dans le texte massorétique. Donc là, si vous êtes après la descente à la sortie d'Égypte, vous êtes à l'an 2666, ce qui fait, comme par hasard, deux tiers de 4000. Et ensuite, vous continuez avec les indications que nous avons dans le Livre des Rois, où on dit en fait que l'inauguration ou la construction du temple a lieu 480 ans après la sortie d'Égypte. Donc si vous calculez tout ça, vous arrivez en effet, grosso modo, après c'est très compliqué parce que les différentes indications des règnes et des rois sont pas toujours hyper claires, mais si vous prenez les textes massorétiques là aussi, on retrouve encore une fois 430 comme au moment de la sortie d'Égypte. Donc on arrive apparemment à l'idée que la purification du temple, qui était donc souillée par Antiochus IV, donc cette inauguration du temple, pour les Massorètes, c'est en effet situé à 4000 après la création du monde. Donc c'est très intéressant. Si ces calculs sont vrais, ça veut dire en effet qu'il faudrait repenser la manière dont on imagine aussi la formation du Pentateuque, parce que très souvent on dit, bon, à l'époque perse, tout ça c'est fini, le Pentateuque est stable, mais il n'est pas si stable que ça, on peut encore le trafiquer. Et ça, c'est très important. Et pour le Pentateuque samaritain, c'est moins clair, mais il semble quand même, si on suit ce livre de Hugues, Secrets of Times, Myth and History and Biblical Chronology, que le système chronologique des Samaritains, en fait, voulait situer l'inauguration ou la fondation du mont Garizim en 2800 après la création du monde. Donc je vous ai également mis là les indications, contrairement au texte massorétique qui donne 430 ans de la durée du séjour en Égypte, pour le texte samaritain, c'est la moitié, c'est 215. Et puis vous arrivez en effet avec les indications d'Exode 16 qui donne 40 ans dans le séjour dans le désert, et 7 ans encore dans une chronique samaritaine pour la durée de la conquête, ben vous arrivez en effet à grosso modo 2800, donc ce qui voudrait dire que là aussi il y a en effet une réflexion qui montre qu'on a sans doute là aussi retravaillé le texte samaritain. Pour le texte grec, c'est beaucoup moins clair. Là, on n'a pas vraiment encore trouvé. Martin Reusel pense que pour la Septante, ce sera l'idée de le mettre à 5000, donc la purification du temple. Mais là, le calcul, je vous l'avoue, il est moins évident. Donc, mais pour la formation du Pentateuque, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui est très important, et je pense actuellement, puisque Collège de France, on vous dit un peu la recherche en train de se faire. Donc je pense que la prochaine grande révolution sur la formation du Pentateuque, ça va être d'aller beaucoup plus bas encore que l'époque perse, où on pensait toujours que c'était un peu la fin des dernières révisions. Je vous en parlerai sans doute lors d'autres cours. Voilà, donc pour résumer ce qu'on peut dire sur la formation de cette liste généalogique, il y a à l'origine une liste de 10 générations de 10 patriarches qui vont du premier homme jusqu'au déluge et qui ont été, vous vous souvenez, intégrés dans ce livre des Toldotes, livre des engendrements des généalogies, qui a été une des sources probablement de l'auteur sacerdotal qui ensuite, en reprenant cette source, a révisé une partie des indications, notamment, je vous le remontre tout de suite, l'ajout des versets 1 à 3 qui renvoient à Genèse 1, mais aussi la révision de la notice sur Noé. Ensuite, un autre rédacteur a intégré une étiologie, une explication sur le nom de Noé, on y reviendra. Et finalement, aux alentours de 150 avant l'ère chrétienne, cette révision partielle des indications chronologiques pour construire cette chronologie qui va de la fondation du monde jusqu'à la purification du temple. Voilà ce qu'on peut dire. Alors donc, le livre de Toldot, je vous le rappelle simplement, la Genèse est structurée par ce titre et puisque nous avons 5.1, livre Sefer Toldot Adam, ça veut dire que c'est probablement le début de ce rouleau qui contenait à l'origine que des énumérations, que des généalogies, et à l'intérieur, ou que P a utilisé pour intégrer aussi ces histoires sur le déluge, sur Noé, sur Abraham, Isaac, Jacob, Ésaü. Alors, donc, je vous ai dit, au moment où on l'a repris, on a eu cette révision tout au début qui renvoie très clairement à Genèse 1. Le jour où Dieu créa un être humain, il le fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle les créa. Donc tout ça, ça vous rappelez, hein, c'est en Genèse 1. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la suite. Il appela leur nom, c'est un peu curieux, mâle et femelle, il les créa, et il appela leur nom Adam, Adam, être humain. Ça, c'est quelque chose un peu bizarre qu'on ne trouve pas en Genèse 1. Hein ? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça ? C'est probablement pour faire une sorte d'harmonisation entre le récit de la Genèse, le premier chapitre, et cette généalogie. Puisque dans la généalogie, Adam s'est utilisé comme un nom propre. Hein ? Alors que dans le texte P, Adam, c'est un nom générique, l'être humain, en tant que mâle et femelle. Donc pour essayer de combiner les deux choses, on a rajouté ces premiers chapitres. D'ailleurs, Adam, comme nom propre, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, on le trouve seulement ici, et en 1 Chronique 1, puis aussi en Genèse 4 aussi, au début. Donc, après, ça devient un nom populaire, mais c'est sans doute pour avoir pour harmoniser ces deux traditions qu'il y a eu cette précision. Alors, ce qui est encore une nouveauté, c'est Adam engendra à sa ressemblance et selon son image. C'est à la ressemblance de qui et à l'image de qui ? Parce que en Genèse 1, souvenez-vous, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Mâle et femelle, vous vous souvenez ? Et là, on a l'impression que Adam engendre son premier fils à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire, en effet, que si on prend cette lecture à la lettre, c'est comme si les générations qui suivent, ils perdent un peu l'immédiateté d'être l'image de Dieu, ils deviennent toujours l'image de leur progéniteur. Donc on n'est plus tellement dans l'idéal de la création, on est dans l'idée que chaque génération ressemble à la génération précédente. Ce n'est pas élaboré dans la suite, c'est seulement cette révision sacerdotale qui peut en effet être comprise de cette manière, peut-être pour dire aussi que la création idéale commence déjà à s'effriter un tout petit peu. D'ailleurs, nous allons le voir au niveau du déluge. Qu'est-ce que c'est le déluge? Le déluge, c'est de montrer qu'on ne vit plus dans la création idéale, où les hommes et les bêtes sont des végétariens, où il n'y a pas de meurtre, où il n'y a rien de grave. Donc tout ça, en effet, va être modifié dans le déluge. Et peut-être là, c'est déjà une petite indication qu'on perd cette immédiateté avec l'image divine. D'ailleurs, ici, c'est Adam qui donne le nom à son fils. Il appela son nom Seth. Donc vous vous souvenez, on avait déjà Adam, Seth et Enoch à la fin du chapitre 4. Et donc, c'est Adam, ici, qui donne le nom, alors que dans l'histoire de Genèse 4, c'est la femme qui donna le nom, alors là, c'était Caïn. Donc, du coup, se pose la question, qui donne le nom à l'enfant dans la Bible? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Si vous lisez tout, c'est les deux, disons les deux, pas toujours les deux ensemble. Si vous prenez l'histoire de la naissance d'Ismaël, lorsque Hagar rencontre le messager divin lui dit « C'est toi qui l'appelleras Ishmaël parce que Adonai a entendu ta misère. » Et ensuite, à la fin de l'histoire, mais au niveau stratigraphique, ce n'est plus la même histoire, c'est le texte sacerdotal, c'est Abraham qui appelle son fils Ismaël. Donc peut-être, mais ce sera à vérifier, a l'impression que dans les textes non P, c'est plutôt la femme, et dans les textes sacerdotaux, il y a une tendance à mettre en effet le père comme celui qui donne le nom à ses enfants. Alors comme je vous ai dit, les différentes indications chronologiques, on n'arrive pas toujours à donner une explication à chaque âge. Donc si vous prenez la première indication qu'Abraham aura eu 130 ans, bon, ça vous pouvez faire des calculs mathématiques. Donc je ne suis pas mathématicien, je regardais ce qu'on dit sur les 130. Alors 130, c'est le premier chiffre naturel qui, en fait, c'est la somme des carrés des quatre premiers diviseurs, donc 1, 2, 5 et 10 au carré, on arrive à 130. Alors, est-ce que les gens avaient des idées comme ça derrière la tête? C'est difficile. Et puis, si vous regardez tous les autres nombres, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais s'il y a des mathématiciens dans la salle, je suis preneur de toutes les explications. Je n'ai pas trouvé pour tous les chiffres. Pour certains, on reviendra sur Enoch, sur le 365 ans de Enoch et tout ça. Ça va bien. Sur d'autres, ça va moins. Donc, Adam meurt à 930 ans. 930 ans, ça veut dire, en fait, il a connu tous les patriarches. Il est en vie jusqu'à Lamech, dans le texte massorétique. Et dans le texte samaritain, il a même encore connu Noé, mais il est mort avant le déluge. Ça, c'est certainement pas par hasard que vous voulez que le premier être humain vit en fait jusqu'à la fin de cette période prédiluvienne qui marque, comme je viens de le dire, une césure. Donc, nous avons déjà vu Seth et Enoch. C'est déjà à la fin du chapitre 4, où on a apparemment voulu faire un lien entre les deux généalogies. Vous vous souvenez, à la fin du chapitre 4, il y a déjà une généalogie qui ne correspond pas tout à fait à ce que nous avons ici. Et on retrouve en quatrième rang Kenan, qui ressemble quand même farouchement à Caïn. Sans doute le même personnage. Alors, soit c'est simplement un diminutif, le petit Caïn, ou, ce qui est parfois proposé aussi, une divinité Kainan qui est attestée dans les inscriptions sabéennes, où c'est une divinité protectrice des forgerons et des métallurgistes. Et on retrouve la métallurgie dont nous avons déjà parlé au sujet de Caïn. Alors, Mahalel et Yéret, il n'y a pas grand-chose à signaler. C'est deux personnages qui n'ont pas vraiment d'équivalent étymologique dans les deux, mais on peut en effet les rapprocher en fait à deux autres personnes en chapitre 4, mais où Yaël et Irad. Hein, son. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes noms, mais Halel vient de la racine Halal, loué. C'est d'ailleurs attesté comme nom propre à l'époque de Néhémie, donc au IVe siècle. Et Yéred, c'est celui qui descend. Bon, c'est aussi curieux. Alors, est-ce que c'est un nom divin qui a été enlevé? Donc, la divinité est descendue ou que la divinité descende, c'est possible. Ce qu'on observe, c'est que ce nom est utilisé dans le livre des Jubilés pour dire que c'est à son époque que descendent les anges du ciel pour coucher avec les filles des hommes. Ça, c'est un épisode que nous allons examiner sous peu. Et puis, alors, arrive le fameux Enoch. Là, on va rester un petit peu plus longtemps avec Enoch. D'abord, la notice sur Enoch sort du cadre habituel, puisqu'on n'indique pas son nom. On indique qu'il a vécu 365 ans, et puis après, il a été pris, Lakar, par Dieu. Et on dit deux fois qu'il marche avec la divinité. Et ha Elohim hitaler. C'est la même chose qu'on va dire sur Noé. Donc apparemment, ça c'est quand même une manière de dire il était spécial parmi ses patriarches, parce que c'est le seul qui reçoit une telle précision, évidemment, avec Noé. Donc, sans doute dû à la révision sacerdotale, Enoch apparaît dans la Bible seulement ici et dans l'autre généalogie de Genèse 4, mais c'est quand même un personnage que vous allez voir qui a été un peu censuré par les rédacteurs bibliques. Enoch, c'était quelqu'un qui, dans le judaïsme naissant, dans certains milieux du judaïsme naissant, jouait un rôle très important. Alors, le fait qu'Enoch vit 365 ans, on peut l'expliquer que Dieu lui a en effet évité, surtout si vous prenez la liste du Samaritain, de mourir au moment du déluge, comme c'est le cas de Yéret, Metushalé et Lamech selon le Samaritain, ou Metushala selon le texte massorétique. Mais les 365, ce n'est pas la seule explication. Alors, je vais vous le dire dans un instant, il y a un lien très fort entre Enoch et les questions de calendrier. Là, il faut que je vous parle un tout petit peu du livre des Jubilés, livre du Jubilé qui ne se trouve pas dans la Bible, se trouve seulement dans l'Ancien Testament éthiopien, où le livre de Jubilé est intégré, et où Enoch joue en effet un rôle très important, où on nous dit qu'il fut le premier des humains nés sur la terre à apprendre l'écriture, la sagesse, la science et à écrire dans un livre les signes du ciel suivant l'ordre des mois, afin que les humains connaissent les saisons en leur ordre, mois par mois. Il fait connaître les jours de l'année, il nous donna l'ordre des mois, parle à des sabbats comme nous lui avons enseigné. Donc Dieu la parle un peu au pluriel, un peu comme dans le Coran déjà, et donc présente Enoch comme le grand spécialiste des questions du calendrier. Et un peu plus loin dans le livre Jubilé, au chapitre 6, alors là, on s'adresse de nouveau à Enoch, et toi ordonne aux enfants d'Israël de garder ce nombre de 364 jours formant une année complète. Donc là, il y a au IIIe siècle, dans le judaïsme, tout un débat sur quel calendrier il faut adopter, le calendrier solaire ou le calendrier lunaire. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi Enoch n'a pas été très populaire auprès des rabbins. Le livre de Jubilé parle très souvent, comme d'ailleurs le livre de Hénoc, dont je vous parlerai dans un instant, parle très souvent des 364 jours pour l'année solaire. Donc, du coup, on peut se poser la question, pourquoi Hénoc a-t-il vécu 365 et pas 364? Ben, ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Alors, donc, les 365, normalement, on dit, c'est lié en fait au calendrier julien. Mais en Égypte, ça existe depuis beaucoup plus longtemps, les 365, hein, où il y a des calculs sur l'année liés en fait à l'apparition de Sirius et qui, dans les textes égyptiens, donnent 365. Donc du coup, il faut se poser la question si ces 365 ans qu'on attribue à Hénoc, s'il y a un lien d'influence égyptien, ou si on avait simplement rajouté un an sur le 364, question qu'on peut se poser. Là, de nouveau, et c'est toujours difficile de savoir si c'est voulu ou non, vous connaissez la gématria, la spéculation autour des valeurs numériques des lettres, et si vous faites ce calcul pour Hénoc, vous arrivez à 84. Ce qui fait 7 fois 12. Donc, voilà, 7 pour la semaine et 12 pour le mois. Alors, de nouveau, est-ce par hasard? Il y a des mathématiciens, j'en ai un doctorant, qui est très, très, très circonspect quand on arrive avec ça, parce qu'il dit statistiquement, ça peut s'appliquer à beaucoup de cas. Donc, je pense qu'il faut raison garder, mais c'est quand même intéressant, donc je voulais quand même vous le communiquez. Donc, Hénoc, selon le livre des Jubilés, bah, qui suit en fait un peu la Genèse, il ne fut pas enlevé au ciel, selon le Jubilé, mais il fut placé dans le jardin d'Éden, qui était épargné par le déluge. Bon, ça, dans la Bible, on n'en parle pas, mais donc on ne voulait pas apparemment le mettre directement dans le ciel. Donc, c'est une figure sans doute important de l'apocalyptique ou de l'eschatologie juive, inspiré, comme je vous l'ai dit la semaine dernière déjà, par les listes ou les énumérations des générations prédiluviennes chez Bérose, hein, puisque chez Bérose, Hénoc est en septième position, et chez Bérose, en septième rang, se trouve un roi qui également reçoit des dieux des dons de sagesse. Et Bérose associe à ces 10 rois prédiluviens un certain nombre de sages, des êtres hybrides, mi-poisson, mi-homme. Et ce qui lui est associé, le septième, c'est Odakon ou Utu Azbu, dont on dit aussi qu'il est monté au ciel. Donc, je pense que ça, ce n'est pas par hasard. Il y a certainement un lien entre le personnage de Hénoc et cette liste que nous avons. Donc, Hénoc fut populaire. On le voit aussi dans les textes de Qumran, dans le Nouveau Testament. Il est cité. On trouve même une citation presque littérale du livre de Hénoc dans l'épître de Jude. Donc ça montre quand même qu'au 1er siècle, c'est un personnage important, alors que dans les textes rabbiniques, il y a plutôt une tentative de marginaliser ce personnage. Hein, par exemple, Bereshit Rabba va dire que Hénoc n'était pas fa juste, mais pas toujours. Et le Targum Onkelos va dire non, l'Akar, c'est simplement Dieu l'a pris pour le faire disparaître, il n'a pas fait monter au ciel. Donc les rabbins n'ont pas aimé Hénoc. Alors à cause du calendrier sans doute, mais sans doute aussi à cause peut-être d'une vision théologique. Donc quand je dis Hénoc, c'est la tradition évidemment autour de Hénoc, pas le personnage dont on sait rien du tout. Donc par contre, la littérature hénochique, elle est très importante. On connaît 3 recueils importants qui sont attribués à Hénoc. L'Hénoc éthiopien, la collection la plus ancienne, et puis un Hénoc slave et un Hénoc hébreu. Donc on va simplement s'arrêter au premier livre de Hénoc, que grâce aux découvertes de fragments à Qumran, on a pu en effet dater d'une manière beaucoup plus précise et aussi d'une manière plus ancienne que ce qu'on avait pensé avant la découverte de ces manuscrits. Parce qu'avant, on n'avait qu'une version éthiopienne qui vient du Moyen-Âge, donc on pensait que c'est un personnage très tardif qui n'avait aucun rôle, en effet, dans l'origine du judaïsme. Alors aujourd'hui, ça, on a vraiment changé assez clairement l'avis sur ces questions. Donc dans ce livre de Enoch, ce qu'on appelle le premier Enoch, il y a toutes sortes de parties dont je ne vais pas maintenant vous donner tous les détails, mais il est important de mentionner le livre des veilleurs, dont je vais vous reparler tout à l'heure quand on regarde Genèse 6, qui est un livre en fait d'une partie qui date du 3e siècle avant notre ère et qui peut donc être contemporain des dernières retouches de la Torah, notamment cette histoire des anges qui descend pour s'amuser avec les filles des hommes. Et donc, dans le livre des veilleurs, justement, je vous le donnerai plus en détail tout à l'heure, ces anges ont donc couché avec les femmes et ont enfanté des géants. Et donc, ces anges, ensuite, sont punis, enchaînés pendant 70 générations. Et ces anges demandent à Enoch d'intercéder, et c'est lui qui entame alors toutes sortes de voyages célestes où on lui montre en effet ce qui va arriver au moment du jugement final. Donc je ne vais pas aller dans les détails, mais simplement l'ange Raphaël va lui montrer, c'est très important aussi après pour le christianisme, parce que ces cavernes que vous avez ici, ça correspond après à des visions du fantasme de l'Église sur le jugement final. Donc on va avoir une caverne pour les justes, où il y a la lumière, l'eau courante, etc. Donc là, tout va bien. Alors après, vous avez une caverne pour les pécheurs qui n'ont pas été jugés de leur vivant. Là, ça se passe déjà beaucoup moins bien. Et ensuite, vous avez une caverne pour ceux qui accusent. Donc, c'est-à-dire les esprits de ceux qui sont morts violemment, comme par exemple Abel, donc on fait un lien avec l'histoire de Cain et Abel, et qui, au jugement, vont accuser les malfaiteurs. Et après, ça correspond un peu au limbe après, il y a une caverne pour les cas spéciaux, c'est-à-dire pour ceux dont on ne sait pas exactement si on peut les récupérer ou non, pour les esprits de ceux qui ne sont pas des saints, mais des pécheurs, mais qui souffrent ici, leurs esprits sont peut-être moins punis, donc il y a déjà une sorte, on peut peut-être se réhabiliter un tout petit peu, donc ils ne seront pas châtiés au jour du jugement, puisqu'on les a déjà maltraités avant le jugement. Et ça se passe non plus aux enfers, ça se passe dans des cavernes, donc on n'est plus sous la terre, mais on est à l'ouest. C'est peut-être un reflet d'exploitation minière très populaire à l'époque perse, qu'on le trouve aussi au livre de Job quand on parle de l'endroit où on peut trouver la sagesse. Voilà, les justes donc pourront, et ça je voulais juste vous le dire puisque ça fait un lien avec ce que nous avons vu sur Genèse 2 et 3, les justes pourront manger de l'arbre de vie. Donc là, évidemment, vous vous souvenez qu'en Genèse 3, on avait dit que plus personne on peut revenir sur l'arbre de vie. Et là, dans le livre de Enoch, les justes vont pouvoir se servir de l'arbre de vie. Donc, la mention de Enoch en Genèse 5 présuppose sans doute des telles traditions déjà. Peut-être pas exactement telles que nous les avons, mais il y a aussi dans le livre de Enoch un livre astronomique qui, de nouveau, est très important au niveau des calculs du calendrier, des fêtes, et ainsi de suite. Alors on arrive au dernier, avant Lamech et Noé, Mathusalem, qui est devenu donc le patriarche emblématique de tous ceux qui ont vécu avant le déluge, puisqu'il a vécu 969 ans, mais pas dans le texte samaritain, où il est un peu plus jeune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut faire un lien avec Matou, Moutou, homme en acadien? Chez Lars, c'est moins clair. Certains font un lien avec le nom d'une rivière des enfers ou d'une divinité d'une rivière des enfers qui est, par exemple, attestée dans des noms propres phéniciens, mais aussi à Ougarit. Mais le texte ne nous donne pas tellement d'indications, en fait, sur Mathusalem. Je vais juste trouver cette image ici, où le Christ qui mène les patriarches au paradis, ben vous voyez, la procession est ouverte ici par Mathusalem. Derrière, vous avez la reine de Saba, Salomon, etc. Donc, c'est un des rares représentations que vous avez de Mathusalem. Alors, Lamech et Noé vont faire le lien, ou disons la transition avec l'histoire du déluge, ou avec les prologues d'abord à l'histoire du déluge. Et comme je vous ai déjà dit, ce qui est aussi particulier dans ce passage-là, c'est que dans le texte de Genèse 5, Noé, en fait, est le seul nom qui est expliqué. Hein. On dit « c'est lui nous consolera de nos labeurs et de la peine ». Ça, c'est un terme que nous avons en Genèse 3 au moment de la sanction du couple humain, et de nos mains à cause du sol que Yahvé a maudit. Donc là, évidemment, il y a aussi un renvoi à la malédiction du sol en Genèse 3. Pourquoi est-ce qu'on a pris la racine Naham, consoler? Parce que Noach vient d'une racine qui veut dire plutôt donner du repos ou se reposer. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette racine? Peut-être parce que, comme nous allons le voir, pour faire un jeu, Noach nous consolera, alors que Yahvé regrette d'avoir fait l'homme, et en hébreu, c'est la même racine. Hein, c'est la même racine. Une fois, elle se trouve au piel, donc dans une forme active, et au nifal, dans une forme réfléchie. Naham veut dire, en effet, regretter, se repentir. Hein. Donc, il y a sans doute ce jeu de mots. Voilà. Alors, à la suite de cela, on va avoir les débuts du déluge. Des débuts, c'est-à-dire des prologues au déluge. Mais avant d'y arriver, il faut que je vous parle un peu du déluge, quand même. Déluge, ben, c'est presque quelque chose de mondial et qui est lié, évidemment, à l'ambiguïté de l'eau. Sans l'eau, il n'y aura pas de vie, mais l'eau est aussi un élément qui peut menacer la vie, des inondations, des crues, des tempêtes, et ainsi de suite. Et donc, il y a toute une réflexion sur la dangerosité de l'eau, mais aussi sur sa nécessité. Donc, je vous rappelle simplement que dans la Bible, avant la création même, il y a déjà Mayim. Il y a Tehom et Mayim, donc les eaux sont déjà là, comme d'ailleurs aussi en Égypte. Hein, en Égypte, en fait, il y a le Noun, qui correspond un peu à cet état primordial qui est décrit en Genèse 1. Alors, il y a des gens qui pensent que les récits ou le mythe du déluge est une sorte presque de mythe universel. C'est notamment l'idée de Mircea Eliade qui dit que le récit du déluge ou les récits comptent parmi les plus répandus du patrimoine religieux de l'humanité. On a pensé parfois qu'il y a une sorte de trauma, aujourd'hui on parle beaucoup de traumatisme des populations, des générations, sorte de traumatisme qui serait en effet maintenu, transmis, et qu'on pourrait remonter au bouleversement climatique de la dernière période glaciaire. Ben, il faut être prudent, mais je reviendrai là-dessus dans un instant. Je voudrais quand même aussi vous citer cet anthropologue Witzel de l'université de Harvard qui dit que le Homo sapiens s'est toujours pensé depuis le paléolithique moyen comme un Homo religiosus diluvialis. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à là, mais il est vrai qu'on a des attestations du déluge dans beaucoup de cultures. Le problème... Il y a un problème méthodologique. Parce que dans beaucoup de ces cultures, quand on raconte les histoires du déluge, que ce soit en Chine ou en Amérique latine, il y a des missionnaires chrétiens qui sont passés. Et donc souvent, les textes que nous avons, c'est des textes qui ont été mis par écrit par des jésuites ou par d'autres missionnaires. Et donc, il faut faire très attention s'il n'y a pas une sorte de forcer un peu les traditions autochtones pour se dire, en fait, qu'il y a une sorte de... Et ça, c'est propre à certains théologiens qui voudraient bien avoir une sorte de pensée unique religieuse de l'humanité avant qu'arrive la vraie révélation. Donc, il faut faire, en effet, attention, mais je vous donnerai quand même quelques exemples de l'Amérique latine, par exemple. On a beaucoup de textes, mais qui sont souvent transmis par des missionnaires, donc dans le Popol Vuh, qui est un texte de l'époque coloniale, où les traditions mayas sont, soi-disant, réunies. Il y a l'idée d'un déluge qui va anéantir la deuxième des races des hommes. Il y a des hommes de glaise, les hommes de bois et les hommes de maïs, qui sont les derniers. Et les hommes de bois sont en effet effacés par une inondation, un grand déluge qui se forma dans le ciel, qui brusquement tomba sur les hommes taillés dans le bois. Comme ceux-ci étaient demeurés inutiles, ils ne savaient pas parler, ils n'avaient pas la mémoire, donc il fut décidé qu'ils seraient mis à mort, noyés. Dans le mythe Inca, vous avez également cette idée de différents mondes qui sont créés. Le premier monde périt dans les flammes, le second par un déluge, le troisième par un tremblement de terre. Et finalement, dans les mythes aztèques, là aussi, le monde a connu quatre destructions, le froid, le vent, le feu, et le quatrième par l'eau, le ciel tomba sur la terre et ce fut le déluge. Et chaque fois, l'humanité survit par un couple unique, qui perpétue la race humaine. Et ce qui est intéressant dans ces mythes aztèques, à la fin du déluge, deux des dieux qui étaient à l'origine du déluge se sacrifient eux-mêmes et ça donne évidemment une sorte de légitimation du sacrifice humain par lequel les prêtres pensent pouvoir éloigner le chaos. En Inde, c'est très intéressant aussi parce que c'est presque comme dans la Bible. En Inde, vous avez deux versions ou trois versions de la même histoire autour d'un personnage qui est Manu. Et Manu est averti du déluge par un poisson, mais qui est en fait un avatar du dieu Vishnu, qui lui dit qu'il doit se construire un bateau qu'il va lui-même ensuite après conduire. Et lors du déluge, ce poisson donc, va tirer le bateau vers une montagne où Manu attend que les eaux s'écoulent. Et après, il y a une version plus récente dans le Mahabharata où Manu est sauvé en même temps que cet sage. Donc là, il y a toute une question s'il y a un lien ou non avec les récits mésopotamiens, ce qui n'est pas impossible, mais très difficile en effet à démontrer. En Grèce, nous avons aussi des traditions sur le déluge autour du couple de Kallion et Pyrrha. Ce n'est pas forcément un déluge universel, c'est un déluge de punition des dieux. Zeus et Hermès voyagent sur la terre dans la théogonie des Hésiotes pour voir qu'ils peuvent sauver d'un déluge qu'ils ont décidé. Très mal accueilli par tout le monde, sauf par Philémon et Baucis, et le dieu sauve ce couple en le mettant à l'abri sur une montagne. Alors que dans les Métamorphoses, c'est un peu différent, où Deucalion, qui est le fils du titan Prométhée, qui l'avertit du déluge décidé par Zeus, et lui dit de construire une barque pour qu'il puisse échapper au déluge avec son épouse. Et à la fin du déluge, le couple offre un sacrifice. C'est assez près, en fait, ce qu'on a. Donc, du coup, il y a aussi des questions. Est-ce que là, c'est influencé par des mythes orientaux? Très difficile, ça va. Et donc, pour créer, là, ensuite, une nouvelle humanité, ce couple doit jeter derrière eux les os de leur mère. La mère, c'est la terre. Donc, c'est les pierres. Et d'où ce mythe que les humains sont nés de la terre et nés des pierres. Et c'est très intéressant parce que dans Ésaïe, je crois 51 ou 53, je ne sais plus, il y a cette idée que Abraham est une sorte de rocher d'où ses descendants étaient taillés. Donc on a peut-être quelque chose d'un peu comparable à ce que vous avez ici. Et en Égypte, en fait, en Égypte, vous avez un déluge annoncé dans le chapitre 175 du Livre des Morts, qui est, selon les égyptologues, un ajout à ce Livre des Morts. Donc là, en effet, on annonce une sorte de fin de monde à venir, où Atum, le roi soleil, dit « Moi, je détruirai tout ce que j'ai créé. Ce pays reviendra à l'état de Noun, donc je vous ai parlé du Noun tout à l'heure, hein, à l'état comme son premier état. Je suis ce qui restera avec Oasis quand je me transforme à nouveau en serpent que les hommes ne peuvent connaître, que les dieux ne peuvent pas voir. » Donc là, il y a une sorte de déluge final, hein, parce que dans tous les autres récits, c'est un déluge qui précède en fait le monde dans lequel vivent les destinataires. Alors là qu'en Égypte, on a ces déluges finales, différents justement des récits de déluges mésopotamiens, qui sont quand même les plus importants que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous avons quatre grandes traditions mésopotamiennes sur le déluge. Le plus ancien, ou disons probablement le plus ancien, c'est Siusudra. C'est un texte en sumérien que date environ du milieu du deuxième millénaire, 1600-1500. C'est un moment où, en fait, les scribes, ils écrivent encore sumérien, mais on voit déjà que ce n'est plus une langue utilisée de manière courante, et où on trouve en effet Siusudra, qui est un roi, prêtre, qui est averti par Eki, et à la fin du déluge, il fait un sacrifice à Utu, le dieu soleil, et reçoit en compensation l'immortalité. C'est malheureusement un texte qui est conservé de manière très fragmentaire, donc nous n'avons pas toutes les indications. Nous savons beaucoup mieux ce qui se passe dans Atrahasis et dans Gilgamesh. Ça, c'est les deux grands récits qui sont très très proches, en effet. Atrahasis, c'est ce diptyque entre création des humains dont je vous ai déjà parlé. Madame Ziegler vous a parlé aussi lors du séminaire, où en effet les humains sont créés pour faire les travaux des dieux. Hein, et ensuite, une fois les humains sont sur terre, ils agacent les dieux parce qu'ils font trop de bruit et ils se multiplient trop. Et donc le déluge, c'est un des moyens, en effet, de limiter la prolifération des humains. D'ailleurs, l'idée, c'est d'abord, ils sont tellement énervés qu'ils voudraient vraiment effacer toute l'humanité. Et c'est de nouveau Enki ou Ea qui va avertir le très sage Atrahasis pour qu'il échappe au déluge. Et là aussi, à la fin du déluge, de nouveau un sacrifice. Et ça, c'est intéressant, gardez ça en tête, parce que c'est très différent ce que nous allons voir dans les récits bibliques. Parce qu'à la fin du déluge, les dieux décident quand même des moyens pour réduire la prolifération des humains. Hein, beaucoup de nouveau-nés morts, des famines, une classe de femmes qui ne peut pas avoir des enfants, etc. Donc, en effet, l'idée, c'est qu'après le déluge, les humains doivent se reproduire moins fréquemment qu'auparavant. Alors que dans les récits bibliques, je vous le dis déjà maintenant, dans les récits bibliques, on va dire, évidemment, les choses ont changé, mais Dieu répète, soyez fertiles, multipliez-vous. Donc ça, c'est presque une sorte de contrat à Atrahasis dans les récits bibliques. Gilgamesh, à l'intérieur de l'épopée de Gilgamesh, on trouve également un récit du déluge qui sans doute copié en grande partie sur Atrahasis, hein, où vous avez le même scénario. Et surtout cette idée avec les oiseaux qui sont envoyés pour savoir si on peut de nouveau sortir de l'arche, et de nouveau un sacrifice. Et Utnapishtim, donc le Noé de Gilgamesh, va recevoir également l'immortalité. Et le récit du déluge est encore, une fois racontée par Bérose, qui semble surtout se baser sur le premier récit de Xisuthros, qui maintenant s'appelle Xisuthros, qui, pareil, est averti du déluge sur l'ordre de Cronos, hein, mais qui, lui, et là, ça, c'est un nouveau élément, il va en effet enterrer des écrits anciens, donc le savoir ancien, qui survit ainsi au déluge. Donc ça, c'est une nouvelle question apparemment qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec le savoir ancien ? Donc, en effet, ici, ces tablettes sont enterrées et donc survivent au déluge. Et puis, Xisuthros est également enlevé au ciel. Et les autres survivants, donc ce n'est pas seulement lui, il est avec d'autres humains, les autres humains reçoivent l'ordre de retourner à Babylone. Donc vous voyez, vous avez toujours un peu la même chose, une décision de certains dieux de déclencher le déluge, l'avertissement du héros par un dieu qui n'est pas d'accord, hein, et la construction d'un bateau, la décision des dieux qui prennent eux-mêmes peur du déluge d'arrêter le déluge, le sacrifice offert aux dieux par le héros qui institue une nouvelle relation avec les divinités et en grande partie, pas toujours, une immortalité des héros mésopotamiens. Donc si vous prenez ce schéma, vous pouvez déjà observer qu'en effet, en Genèse 7 et 8, dans le récit biblique du déluge, vous avez à peu près le même schéma. Il y a deux différences qu'on peut déjà souligner. Bah, c'est-à-dire dans le récit ou dans les récits bibliques du déluge, qu'est-ce que vous observez ? Bah, Yahvé joue les deux rôles. C'est à la fois celui qui décide le déluge, mais aussi celui qui avertit Noé. Alors que dans les récits mésopotamiens, ce n'est pas les mêmes. Il y a ceux qui décident, et puis il y a les dieux qui veulent sauver l'humanité et qui avertissent. Alors, dans le récit de la Genèse, évidemment, c'est la même divinité. Noé ne va pas recevoir l'immortalité, mais il pourra quand même vivre assez longtemps, 960 et quelques. Voilà, donc je ne vais pas maintenant vous commenter ce tableau, mais vous l'aurez sur vos supports de cours où vous avez de manière assez détaillée les différents parallèles qui vous permettent en effet de bien voir les structures et aussi les influences des différents récits les uns sur les autres. Donc, comme je vous dis, les origines du récit mésopotamien, c'est difficile de savoir. Alors, comme je vous ai dit, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait y voir une sorte d'inondation de la mer Noire, qui était d'abord une lacte d'eau douce et qui était envahie au sixième millénaire par les eaux de la Méditerranée, ce qui aura provoqué une très grande inondation, donc une sorte de déluge qui sera resté dans les mémoires. On pense aussi des inondations du golfe Persique dues à des réchauffements très rapides, tout ça c'est possible, mais de manière générale, ce qu'on observe quand même très fréquemment, c'est que il y a en tout temps des inondations, surtout dans les deltas de l'Euphrate du Tigre. Peut-être qu'il ne faut pas non plus aller trop scientiste d'une certaine manière et chercher toujours l'explication scientifique. Le déluge, c'est un mythe. Donc évidemment, un mythe peut se baser sur des mémoires archaïques, mais c'est très difficile de les démontrer. Par contre, ce qui est très facile de démontrer, c'est que les récits bibliques dépendent clairement des récits mésopotamiens. Donc ça, c'est très clair. Et c'était d'ailleurs, je vous ai parlé à d'autres occasions, c'était d'ailleurs un grand drame au moment où on a publié les premières tablettes mésopotamiennes qui contenaient justement le récit du déluge, où tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y a des textes plus anciens que la Bible et que les auteurs bibliques auraient peut-être copié des textes mésopotamiens. Surtout en Allemagne, ça a donné lieu à ce qu'on appelle le Babel-Bibel-Streit, donc la lutte de Babel contre la Bible, ou le conflit Babel et Bible. C'était vraiment, ça a duré plusieurs années, où un assyriologue d'Elitsch à Berlin, en présence du Kaiser, avait fait une conférence où démontrait tout ça, et ça a en effet bouleversé. Aujourd'hui, ça ferait rire, mais à l'époque, de se dire qu'il y a des textes plus anciens que la Bible, que les auteurs bibliques auraient copié des choses d'ailleurs, on ne pouvait pas imaginer. Mais avec le déluge, évidemment, là, nous avons un peu les preuves matérielles, je dirais. Voilà. Donc, dans les récits bibliques, comme je vous ai déjà dit, c'est clair que nous avons deux récits. Deux récits qui sont, en effet, mélangés dans un seul récit. Si vous lisez attentivement le texte, vous voyez que Papa Noé va prendre une paire de chaque animal. Papa, on va lui préciser, c'est des animaux purs, une paire, des animaux impurs, sept. Il y a des indications différentes sur la durée du déluge. On raconte deux fois que Noé entre dans l'arche, etc. Donc c'est très clair. Si vous essayez de lire le texte tel que nous l'avons, vous vous rendez compte que ce n'est pas un texte unique. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les deux textes l'un après de l'autre? Par exemple, pour les récits de la création, nous l'avons vu. Nous avons Genèse 1 et ensuite nous avons Genèse 2 et 3. Et pourquoi pour le déluge, les rédacteurs les ont mis ensemble? Comme le déluge est un événement unique, on ne peut pas raconter deux fois la suite deux récits du déluge. Pour la création, on peut un peu, parce qu'on dit en Genèse 1, c'est la création de tout l'univers. En Genèse 2, 3, on raconte la création de, plus précisément des humains. Mais pour le déluge, ça ne marche pas. C'est comme pour la traversée de la mer, en Exode 14. Ça, c'est des récits que vous ne pouvez pas raconter deux fois. Donc, il faut faire un travail plus complexe de mettre ensemble deux récits. Et donc, du coup, souvent, un récit perd un peu, du coup, de sa cohérence. Donc, d'ailleurs, on le voit aussi, puis on va le voir tout de suite, puisque je vais vous traduire ces prologues. Nous avons même trois prologues qui sont donnés au déluge. D'abord, la coucherie des fils de Dieu avec les filles des hommes. Ensuite, l'être humain fait le mal et Yahvé regrette d'avoir fait l'être humain. Et ensuite, une autre idée qui n'est pas totalement différente, mais quand même un peu, puisque, on va dire, la terre s'était remplie de violence. Une fois, on a le mal, Ra'a, et après, on a la Hamas, la violence. Donc, trois prologues différents. Le premier, sans doute, le plus récent. Le deuxième, probablement le plus ancien. Et le troisième, le prologue sacerdotal. Je vais vite vous le lire. Il arriva que l'être humain commença à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur furent nées. L'être humain, évidemment, il faut le prendre ici comme un générique, donc on pourrait aussi traduire les humains. Les fils des dieux virent les filles des humains. Oui, elles étaient belles. Ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Yahvé dit, « Mon souffle ne dirigera pas toujours l'être humain, car lui aussi est cher, ses jours seront de 120 ans. » Là, on a un terme hébreu, « bashagam », qui est très bizarre. Très, très bizarre. Une composition de plusieurs prépositions en conjonction, « be »,« che », comme « acher », et « gam ». Donc ça, c'était des telles compositions, c'est seulement dans le livre de Coëlette, ce qui vous indique déjà en fait que nous avons affaire là à un texte clairement récent. Et les Néphilim étaient alors sur la terre en ce jour-là, et encore après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains et qu'elles enfantèrent pour eux, ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Yahvé vit, il était grand le mal de l'être humain sur la terre, et toute conception de pensée de son cœur était seulement mal tous les jours. Yahvé regretta d'avoir fait l'être humain sur la terre, et son cœur fut affligé. Yahvé dit, j'effacerai l'être humain que j'ai créé de la surface du sol, de l'être humain jusqu'au quadrupède, à ce qui grouille et aux volatiles du ciel. En effet, je regrette de les avoir faits. Quant à Noé, il avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Voici le toldot de Noé. Noé est un homme juste et intègre parmi ses générations. Avec la divinité marchait Noé. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Yafet. La terre était corrompue aux yeux de la divinité. La terre s'était remplie de violence. Dieu vit la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu son chemin sur la terre. Voilà. Donc trois, vous avez vu, trois manières d'introduire le déluge. Si on s'arrête un petit moment encore sur la première, elle est très bizarre, cette première, cette histoire de Néphilim et de Géborim. On ne voit pas très bien ce qu'elle vient de faire avant le déluge. Donc, si on lit le mal dont parle le verset 5 à la suite du verset 4, on peut se dire le mal, c'est peut-être ça. C'est Néphilim et c'est Géborim. Le texte ne dit pas tellement. On retourne aussi aux origines de l'humanité, donc il n'y a pas vraiment de suite chronologique logique. Et évidemment, on a des renvois à Genèse 1, puisque on avait en effet là aussi l'idée de la multiplication des humains. Et l'utilisation par contre de Ha-Adama, donc du sol, renvoie à Genèse 2, où il y a ce lien entre Adam et Adama. Donc ça veut dire clairement que ce texte présuppose le récit sacerdotal et le récit non sacerdotal. Et on a une focalisation sur les filles. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que les fils dont on s'intéressait. Tout d'un coup, on s'intéresse ici aux filles. Donc, si vous regardez la structure de ce texte, ça commence avec les unions entre les filles humaines et les êtres divins. Et le résultat de l'union est donné au verset 4b, à savoir les Giborim, les héros. On verra ce que c'est. À l'intérieur, on a deux remarques. La limitation de l'âge des humains à 120 ans par Yahvé. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et puis, la notice sur les Néphilim qui étaient alors sur la terre. Donc, probablement, vous pouvez, faites l'exercice, vous pouvez lire le 4b directement à la suite des unions entre les fils de Dieu et les filles des humains. Et donc ça veut dire que probablement la notice sur les 120 ans et la notice sur le Néphilim ont été ajoutées après coup. Alors pourquoi est-ce qu'on a ajouté cette limitation de l'âge humain à 120 ans? Peut-être c'est quand même lié. Bon, il y a beaucoup d'explications. Évidemment, on peut penser à Moïse qui meurt à l'âge de 120 ans. Mais si vous pensez de nouveau à Atrahasis, selon Atrahasis, le déluge se produit parce que les gens se multiplient trop. Et peut-être de dire « je vais réduire l'âge à 120 », c'est peut-être aussi une sorte de moyen de réduire les nombres des humains sur la Terre, parce que s'ils vivent jusqu'à 900 et quelques, comme on l'a vu avec Adam, donc il y a beaucoup de générations qui cohabitent, alors là, c'est peut-être un peu moins. Donc c'est peut-être en effet lié un peu à cette idée, une sorte d'anticiper le nouvel ordre post-diluvien. D'ailleurs, dans le livre de Jubilé, cette remarque-là, on va, comme par hasard, la situer après le déluge. C'est pas par hasard, à mon avis. Et donc, les Néphilim, bon, on verra ça plus en détail la semaine prochaine. Les Néphilim, c'est sans doute une glose qui veut expliquer qui sont les fameux Giborim. D'ailleurs, la Septante va traduire les deux noms par le même terme, gigantes, des géants. Alors, des rapports sexuels entre les dieux et les humains, ça existe. Ça existe, par exemple, à Ugarit. À Ugarit, nous avons donc le mythe de la naissance des deux divinités, Shaha et Shalim, donc les deux aspects de Vénus, du matin et le soir, donc l'aube et la crépuscule, qui naissent en effet, dans un texte ougaritique, d'une relation du dieu El avec deux femmes, hein, donc en même temps. Et donc c'est en fait c'est des sortes de moitié jumeaux. Et puis évidemment, on a déjà évoqué la figure de Gilgamesh, dont on dit dans l'épopée, deux tiers en lui sont divins et un tiers humain, puisqu'il est le fils de la déesse Ninsun, au moins dans l'épopée. Gilgamesh apparaît aussi, et un lien quelque part, dans le livre des géants, qui fait partie du livre de Enoch, dans les fragments à Qumran. Donc ça veut dire sa popularité est restée, en effet, jusqu'à une époque très, très récente. Et puis, nous allons juste rappeler le contexte grec, puisque évidemment, dans la Théogonie de Hésiode, vous avez toute une liste de tous les héros qui naissent des rapports entre Zeus et d'autres dieux et des humains. Dans le catalogue des femmes, c'est assez intéressant, on trouve cette idée que Zeus aurait voulu détruire la vie des demi-dieux afin que les enfants des dieux ne s'accouplent pas avec les misérables mortels, voyant le destin de leurs propres yeux, mais que le dieu bienheureux ait désormais, comme auparavant, leur mode de vie et leur lieu habituel à l'écart des hommes mortels. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour faire ça, il provoque la guerre de Troie. Alors, Ronan Tendel, qui s'est intéressé à ce texte, il va même jusqu'à dire la guerre de Troie en quelque sorte déplacé ou s'est substitué au déluge. Mais ça, évidemment, dans le texte, c'est difficile de savoir. Mais il y a quand même quelque chose de comparable à ce que nous avons en Genèse 6. Et ce lien avec la mythologie grecque, ça a été déjà observé par Flavius Joseph, parce qu'il dit, en effet, les exploits que leur attribue la tradition ressemblent aux tentatives audacieuses que les Grecs rapportent aux yeux des géants. Mais pour vraiment comprendre cette histoire, nous devons en effet revenir à Enoch, au livre de Enoch, puisque dans le livre de Enoch, nous avons toute l'histoire. Et cette histoire, je vous le raconterai la semaine prochaine. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Je vous rappelle, merci, je vous rappelle que d'ici 20 minutes, il y aura le séminaire, on parlera des discours sur les origines dans les psaumes. On n'a pas beaucoup parlé des psaumes, donc si vous pouvez rester, vous serez le bienvenu. Autrement, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Très bonne journée, merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.